Même audio. Vous ne l'avez pas vu? Vous pouvez l'entendre.
Ben écoutez, je vais sans plus attendre, je vais demander à Mohamed Meshmesh, Najia Gaba, Ulysse Rabaté, Julien Talpin de me rejoindre, s'il vous plaît. Najia, on fait attention, voilà. Il y a un escalier. Voilà. Et le temps qu'il s'installe, j'en profite pour vous dire que nous avons deux tables de livres. La librairie Oxymore de Port-Vendres qui est là. Ici, il y a Céline qui lève la main, Corinne, je vois, Julie. Où vous pourrez trouver un certain nombre d'ouvrages, et notamment les ouvrages de Julien Talpin et de Ulysse Rabaté qui sont là. Et aussi, plus loin, au fond de la salle, les éditions Premier Matin de novembre. Assia est à la table. Voilà, des éditions toulousaines très très importantes. Voilà pour notre mémoire et notre transmission politique. Bon, mais merci à vous d'être présent parmi nous. Je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc, pourquoi les quartiers populaires sont-ils impopulaires? Bon, comme ça a été dit, Cédric Cobert a montré la une de l'UMA dimanche. Dans quelques jours, c'est un triste anniversaire, puisque c'est la mort de deux jeunes clichissois, Zied Bena et Bouna Traoré, qui sont décédés le 27 octobre, je ne voulais pas faire d'erreur, à Clichy-sous-Bois, en fuyant la police. C'était il y a 20 ans. Et donc, ces 20 années qui sont passées, voilà, c'est pour nous l'occasion. Il y a de toute façon la presse, un certain nombre de médias, de débats un peu partout en France, forcément. C'est l'occasion de revenir sur ce sujet. Au-delà des faits eux-mêmes, on va essayer. Je leur ai écrit un petit conducteur. Je ne sais pas si on va arriver à le tenir, mais on va essayer quand même de revenir sur ces 20 ans et sur un certain nombre de sujets qui concernent les conditions d'expression et d'organisation des habitants et des habitantes des quartiers populaires. En gros, c'est un peu notre thème. Mais avant toute chose, Je pense quand même, et là-dessus, Mohamed, je vais tout de suite te demander de prendre le micro. Je pourrais le faire, mais ça me semble important. Donc, toi qui es de Clichy-sous-Bois, qui était en première ligne, qui était présent sur place, je pense que c'est important. C'était il y a 20 ans. Sans doute que tout le monde connaît et sait ce qui s'est passé, mais je crois que c'est important de faire peut-être un rappel des faits. Qu'est-ce qui s'est passé le 27 octobre 2005 et dans les jours qui ont suivi à Clichy-sous-Bois et peut-être ensuite dans le reste de la France? Voilà, si tu peux nous faire un petit rappel de ça.
Bah bonsoir, en tout cas, bonsoir Toulouse. Hein. Merci Tactique Collectif de nous inviter et de participer toujours à ce festival. Et puis ça permet tout simplement de continuer la lutte, y compris dans nos mémoires et dans le devoir de mémoire. Et notamment sur cette question des 20 ans. Donc, pour commencer, c'est une pensée pour tous ceux qui sont et qui nous ont quittés avant 2005, parce qu'il y en a eu. Une pensée pour Zied et Bouna. Une pensée pour une troisième personne, parce qu'au moment des faits, ils étaient trois. Zied et Bouna, malheureusement, sont décédés. Et il reste un jeune homme qui s'appelle Mutin, qui faisait partie des trois, qui lui, malheureusement, est cabossé totalement psychologiquement. Il est en vie, bien sûr, mais il est complètement éteint par rapport à ce qui s'est passé, à son vouloir, du fait de dire que lui, il est resté en vie et que les autres, ils sont partis. Donc, la mort de Zied et Bouna, c'est simple, c'est une période où on est en plein ramadan. Et pour passer un peu de temps, ces gamins, ils avaient décidé d'aller jouer au foot dans une ville limitrophe qui est Livry-Gargan, qui est collée à Clichy-sous-Bois. Et une fois qu'ils ont terminé leur match de foot, ils rentraient tout simplement pour aller casser le jeûne. Et à ce moment-là, voiture de police qui arrive, qui s'arrête brutalement et qui cherche à effectivement les interpeller sans qu'ils comprennent qu'est-ce qui se passe. Et ont eu peur de la police, sachant que les relations police-population, et notamment avec les jeunes, ça se passe pas très bien. Donc ils décident effectivement de courir. Et ils s'enfuient, et puis pour éviter de se faire attraper, malheureusement, ils rentrent dans un transfo, où la police est bien au courant qu'ils rentrent dans ce transfo. Et clairement, au lieu de pouvoir aller les assister, dans les messages de Taki, on entend des policiers qui disent de toute manière, ils iront pas loin, je donne pas cher de leur vie. Voilà. Et on est arrivé à ce que, effectivement, ces jeunes soient électrocutés avec une incidence, y compris sur la ville, parce que quand ils sont fait électrocuter, c'est carrément l'ensemble du circuit électrique qui se coupe sur la ville de Clichy-sous-Bois, ainsi de suite. Donc, comme si il y a quelque chose qui venait de s'éteindre totalement, quoi. Voilà. Et on est suivi le soir même par des faits qui sont évoqués par certains jeunes et, à l'époque, M. Sarkozy, qui, lui, apporte une contre-vérité dans ce qui venait de se passer. Et derrière, ben, la colère des jeunes qui, clairement, parce qu'il y a des survivants, parce qu'ils n'étaient pas tout seuls, eux ont apporté d'autres faits qui s'étaient avérés pas celles qu'on est en train de raconter. Et en fait, on les a accusés au démarrage de dire qu'ils avaient cambriolé un chantier. Donc, en fait, qu'ils étaient bien poursuivis. Et derrière, une contre-vérité qui disait « Mais non, en fait, ils n'étaient pas poursuivis » ou ainsi de suite. Donc on a tout de suite compris que, en fait, on essayait de cacher une vérité concernant la mort de Ziad Ebouna. Donc nous, sur Clichy-sous-Bois, on a vécu les révoltes pendant 6 nuits, avec une telle violence, avec une violence physique, une violence psychologique, avec des canons de CRS qui étaient à quadriller le quartier, avec des jeunes qui, clairement, n'étaient pas en mesure d'entendre ce qui venait de se passer, donc très en colère. Pas que des jeunes, des adultes aussi, qui étaient en train de dire que ça suffisait, quoi. Ça suffisait que c'est toujours les mêmes qui tombent, et que derrière, en plus de ça, on veut juste les pointer du doigt comme s'ils étaient responsables du décès de Ziad Ebouna, quoi. Donc, 3 nuits où ça a été compliqué. Moi, j'étais éducateur de rue à l'époque, donc mon travail, c'était la rue. J'ai passé mes soirées le soir dans la rue à essayer, tant bien que mal, d'expliquer à une certaine jeunesse qu'on n'arrivera pas à les ramener, que la colère, elle peut être légitime, mais qu'on peut essayer aussi de faire autrement. C'était assez compliqué de se faire entendre, et encore beaucoup plus compliqué de se faire entendre par la police, parce que moi-même, en tant qu'éducateur, je me suis retrouvé moi-même à être malmené, à recevoir des tirs de flashball, de lacrymogènes, de me dire qu'il n'y avait pas à discuter, c'était comme ça autrement, et puis de voir que certains presque attendaient honnêtement hein, tous les soirs que les choses s'enveniment du côté de chez la police. Et surtout sur l'aspect psychologique, c'est que on avait l'impression qu'on était qu'on était en guerre, en fait. Voilà. On s'est retrouvé avec des hélicoptères qui étaient au-dessus de nos têtes, avec des phares qui venaient sur les logements. Ça veut dire, imaginez un peu l'état psychologique des gamins qui étaient en train de vivre ce qu'ils étaient en train de vivre pendant ces moments-là, sans qu'il y ait eu aucune cellule psychologique. C'est-à-dire qu'en fait, personne ne se pose la question du traitement psychologique que peuvent subir ces gamins. Et donc, quelle violence! On est tout simplement en train de les faire grandir, quoi. Donc pendant 3 nuits, il y a eu ce temps assez difficile, et ce qui derrière en fait a généré l'ensemble des révoltes dans toute la France, c'est la troisième nuit où pendant que, comme on était pendant la période du Ramadan, les fidèles se retrouvaient à la mosquée, et ces tirs de lacrymogène qui sont venus gazer la mosquée, qui ont finalement enflammé la ville, les villes qui étaient...
Il y a une grenade qui est entrée dans la mosquée, c'est ça?
En fait, ils ont tout simplement, au moment que les choses commencent à retomber, c'est-à-dire que ça retombait un petit peu, eh bien, ils ont tiré à l'intérieur de la mosquée avec des gaz lacrymogènes, où il y avait beaucoup de fidèles qui étaient à l'intérieur. Et puis ça a fait effectivement, ça a déclenché derrière une plus grosse colère. C'est-à-dire même ceux qui étaient dans la rue à essayer de calmer se sont retrouvés à être plutôt du côté de ceux qui étaient en train de se révolter en disant en fait on va trop loin. C'est-à-dire que on touche à des choses dont ça n'aurait pas dû arriver, quoi. Et même là-dessus. Si vous regardez un petit peu, ne serait-ce que comment ça a été, comment M. Sarkozy communiquait là-dessus, alors il reconnaît que c'était bien des dotations de la police, mais par contre, c'était pas eux qui les avaient tirés, quoi. Donc, à prendre les gens pour des cons, comme si nous, on était en capacité de prendre leurs dotations et d'aller s'auto-suicider nous-mêmes, quoi. Donc, c'est ce qui a, derrière, déclenché... une partie de la colère, mais dans d'autres villes. Et la sixième nuit, je vous dis ça parce que à ce moment-là, Sarkozy, qui était ministre de l'Intérieur, demande au maire de Clichy-sous-Bois à l'époque, Claude Dillin, de rencontrer une délégation d'acteurs ou d'actrices qui étaient issus du quartier parce qu'il avait envie, à un moment donné, de mieux comprendre la chose. Enfin bref, on avait compris que plutôt, ce qui l'intéressait, c'était plutôt d'essayer de faire un coup médiatique. Donc moi, j'ai fait partie de cette délégation où on s'est retrouvé à Place Beauvau. On avait demandé à ce que la presse ne rentre pas parce qu'on ne voulait surtout pas être instrumentalisé. Et finalement, on nous a installés. Et puis, comme par hasard, la presse est rentrée. Et puis, M. Sarkozy qui nous a fait rigoler en disant « Mais qu'est-ce qu'ils foutent là, ceux-là ? Je ne comprends pas. » On est à Place Beauvau. Hein. C'est-à-dire, en fait, c'est un bunker, mais ils arrivent à rentrer. Et en fait, il nous a baratinés. Et quand on était là, il y avait toute la police de France qui était présente, c'est-à-dire... toute la sûreté départementale, et les téléphones ne faisaient que de sonner. Et c'est là qu'on voyait une bonne partie des policiers décomposés, et on entendait « ça pète là, ça pète à La Courneuve, ça pète à Aulnay, ça pète à Sevran, ça pète... » Enfin, dans tout le 96, ça a commencé à péter, et puis dans les villes qui sont au niveau régional, et donc ça y est, c'est, l'escalade était partie, quoi. Et il nous demandait à nous qu'est-ce qu'on peut faire. On lui a dit, nous, tout ce qu'on va te demander de faire, en tout cas nous concernant, c'est de demander à tes CRS de sortir du quartier, parce que tant qu'ils seront là, les jeunes, ils n'arrêteront pas, quoi.
Merci, Mohamed. Donc ensuite, petit à petit, alors bon, c'est dans l'ensemble de la France hein, que va se répandre ces soulèvements. À ce moment-là, on dit ces émeutes. Je fais une petite parenthèse parce que je voyais aujourd'hui dans Libé, je le signale, du coup, puisqu'on parlait de la presse, la tribune de Nadir Dendoun qui rappelle que Nicolas Sarkozy avait refusé la présomption d'innocence à Ziad Ebouna, qu'il demande à ce qu'on lui applique aujourd'hui. Mais bon, c'est une parenthèse. Ça va s'enflammer dans toute la France, ça va se soulever un peu partout. Je crois que ça va prendre un peu de temps, Najia, parce que. Najia Gaba, c'est une Toulousaine qui agit de longue date sur les quartiers populaires de Toulouse et notamment sur ceux du Mirail. Voilà, hein, on se connaît bien. Et elle connaît bien Toulouse, elle connaît bien le quartier et elle connaît bien les questions de jeunesse. C'est pour ça que ça m'a intéressé que tu sois là, Najia. Et ça va se soulever aussi à Toulouse. Alors, peut-être je voudrais bien que tu me décrives si voilà, on va faire appel à nos souvenirs. Hein, comment ça a pris un peu de temps et quelle forme ça a pris comment ça s'est passé, comment toi à ce moment-là, ce que tu as pu observer, comment tu l'as vécu, voilà.
Disons que merci d'abord de l'invitation. Le drame à Clichy a ravivé. Une douleur qui était très présente, la mort de Pipo en 98. Donc ça a été direct, une réaction, mais direct,
Je vais t'interrompre, mais c'est simplement pour te demander, je suis obligé, parce qu'il y a, je pense, pas mal de gens dans la salle qui n'ont pas forcément, alors soit parce qu'ils sont plus jeunes, soit parce qu'ils n'étaient pas toulousains.
J'en reviendrai après.
D'accord, hein. Ok, ça marche.
C'est juste comment 2005, ça a démarré dans les quartiers populaires. Alors, ça a flambé un peu partout. Et Toulouse était restée un petit peu en retrait sur les premiers jours. Et après, effectivement, ils ont mis du temps, mais ils ont clôturé, en fait. Toulouse a clôturé les émeutes sur une période de 15 jours avec une violence inouïe. Beaucoup de bâtis détériorés, beaucoup de véhicules cassés, une main arrachée, le métro complètement arrêté. Mais vraiment, on a vécu une quinzaine de jours où personne n'était prêt. Personne n'était prêt, ni la municipalité, ni l'État, personne n'était prêt à cette violence. Et alors pourquoi ça a été aussi, aussi violent? C'est qu'en 98, puis en plus à peu près la même, un jeune Pipo du quartier de la Rainerie a été abattu par, par un policier. Et donc là, idem, donc à l'époque, on n'était pas sur le même contexte des quartiers populaires, puisque les quartiers populaires étaient plutôt organisés en bandes. On n'était pas sur une économie parallèle aussi étendue. Donc ça, c'est quand même important par rapport à la discussion qu'on aura plus tard. Et effectivement, ce sentiment d'injustice et d'impunité de la police a révolté la population des quartiers, mais qui sont venus, alors pour le coup, ça n'a pas pété dans tous les quartiers, c'est tous les quartiers sont montés sur le quartier de la Rainerie, et là, le quartier de la Rainerie, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand même un quartier enclavé où la révolte ou la confrontation, pardon, police jeune peut se faire facilement. On a une grande rue de Kiev, et après on a une grande place, et puis donc du coup les confrontations ont été vraiment terribles. Et nous à l'époque, donc évidemment, on a été sollicité pour essayer de ramener la paix et pour expliquer effectivement que bon, Pipo n'allait pas revenir, mais qu'il fallait effectivement s'organiser, comment, quoi, on ne savait pas, puisque nous-mêmes, on était dépassés par les événements. Et ça a été, je crois, le déclencheur pour que cette jeunesse se révolte par rapport à cette injustice, par rapport à cette relégation, par rapport à cette non-existence, par rapport à cette non-reconnaissance de jeunes citoyens français. Voilà, donc effectivement, Toulouse, ce que je dirais dans les quartiers populaires, c'est que dès qu'il y a un mouvement national, Toulouse est prêt à dégainer, quoi. Est prêt à dégainer parce que la mort de Pipo reste toujours très présente, et c'était 98. Hein. Et nous, à l'époque, on disait, attention, les jeunes, tout petits, 7 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 2 ans, qui ont vécu ces émeutes-là, si effectivement il n'y a pas un traitement psychologique, ça sera des bombes à retardement. Pour certains, ça n'a pas loupé. Pour certains, ça n'a pas loupé. Donc peut-être que j'en arrêterai là et puis après on.
Si tu veux rajouter un peu sur. Parce qu'en fait, ce que je pensais faire, c'est, voilà, c'est un peu sur les événements eux-mêmes et puis ensuite on va rentrer dans une discussion plus sur les questions sociales et politiques. Okay. Mais
après, effectivement. Il y a eu 98, il y a eu 2005, il y a eu 2023, mais en fait, ce que je dirais, moi, c'est que ce fossé, en tout cas, entre la police et la jeunesse française, il va falloir, en tout cas, qu'on la travaille, mais tout ne part pas de rien, quoi. Il n'y a qu'à se rappeler le discours de Sarko sur la racaille, les carchères, ce sentiment d'humiliation, de vivre dans les quartiers de relégation. Et puis, à chaque fois, on en revient, quoi. Les jeunes de 2005, ce ne sont pas les mêmes de 98, qui ne sont pas les mêmes de 2023. Et aujourd'hui, on est en 2025. Et on va réitérer l'histoire. Et on va réitérer l'histoire. Et moi, en tout cas que militante associative, la question qui se pose, c'est comment on n'a pas réussi En tout cas, nous, de notre place, donc moi je me mets dedans en tant que responsable associatif, comment de notre place on n'a pas réussi, en tout cas, il y a eu la montée des associations d'Assez le Feu et compagnie, il y a eu les maisons de quartier, il y a eu les cafés citoyens, mais on n'a quand même pas réussi à déconstruire cette colère pour la reconstruire de façon positive pour que cette jeunesse puisse avoir sa place dans cette société-là, quoi. Donc je crois que si on a à discuter, il y a la mémoire qui est très importante, mais il y a demain, qu'est-ce qui va se passer, quoi.
Je suis complètement d'accord, c'est pour ça que je voulais juste qu'on se rappelle les faits, et tout de suite je le dis avec toi, bon, là je me mets en rôle un petit peu d'animation, j'étais aussi toulousain à ce moment-là, et il y a un truc sur lequel, j'étais conseiller municipal à Toulouse en 2005, dans l'opposition, mais il y a un truc quand même sur lequel je veux te rejoindre tout de suite, Nagia, c'est que malgré nos expériences, nos parcours, d'abord d'enfants des quartiers populaires, de militants des quartiers, ou de militants des quartiers populaires, comme l'a dit Nagia, moi-même, voilà. Il y a un moment sans dépasser par ce qui se passe. On a du mal à... Et on a, même si on arrivait à entrer en dialogue, notamment avec les jeunes, voilà, c'était pas un dialogue forcément conflictuel avec eux, mais ce qu'ils nous renvoyaient, c'est aussi notre impuissance en tant qu'acteurs. Mais peut-être on y reviendra, à part si tu veux dire quelque chose là-dessus.
Et puis, ce que je rajouterais, ce qui est terrible, c'est que nous, on contribue au vivre ensemble, l'éducation nationale contribue au vivre ensemble, au respect et à la justice, quoi, en fait. C'est la question de quel sens on met aujourd'hui la justice française. Et en tout cas, moi, je voudrais, en tout cas, pour demain, alors moi, j'arrive à la fin de ma carrière, mais je voudrais pour demain croire, en fait, qu'il y a une justice, quoi. Et qu'à un moment donné, on ne peut pas systématiquement opposer, voilà, c'est ça, on ne peut pas opposer les institutions, on ne peut pas opposer les jeunes à la police, on ne peut pas opposer les jeunes. Voilà, il va falloir qu'on trouve, je pense, d'autres formes de lutte que celle qui est véhiculée par les jeunes. Parce que ceci étant, donc là, moi de ma place, ça arrange bien quand même, en même temps que les jeunes se révoltent de façon violente, parce que ça fait effectivement vivre les médias, ça fait effectivement vivre les politiques, ça fait effectivement vivre un petit peu tous ces gens pour dire, ben voilà ce qui se passe dans ces quartiers populaires, quoi. Voilà.
Écoute, tu viens de dire un mot important, donc là je vais ensuite continuer avec Ulysse et Julien, et ensuite on reviendra à toi, Mohamed, pour parler justement, parce qu'on va, bon voilà, on a rappelé les faits, à part si, mais très rapidement, est-ce qu'il y a une ou deux questions, sans plus attendre, où il y a peut-être des gens qui, puisqu'on parle beaucoup des jeunes, il y a peut-être des gens qui ont 40 ans, 35 ans, donc ça veut dire qu'ils avaient 20 ans ou 15 ans au Mirail en 2005 ou ailleurs, je ne sais pas. Ok, donc il y a un truc sur lequel quand même je voudrais venir, parce que bon, il y a eu ce mouvement-là, tandis que les jeunes se révoltent, tu l'as dit toi-même, et on a eu quand même, je crois qu'il faut juste aussi, dans le rappel des faits, je veux bien que tu le fasses, Ulysse, et ensuite Julien, c'est... Bon, on a quand même eu une réponse. Alors, il y a eu le maintien de l'ordre. Bon, je vais un peu vite, hein. Mais il y a eu le maintien de l'ordre, évidemment, ce qu'a raconté tout à l'heure, un petit peu commencé à raconter Mohamed. Voilà. Et mais il y a eu aussi des réponses politiques, institutionnelles. On va se rappeler que c'était Dominique de Villepin, le Premier ministre, tout ça, qu'on a eu l'état d'urgence, qu'on a eu tout. Voilà. Donc, peut-être quand même, du coup, la réponse, elle m'intéresse. Pourquoi ? Je le dis tout de suite. Parce qu'on va parler sans doute de 2023 tout à l'heure, et j'aimerais bien qu'on fasse un petit parallèle entre la façon dont se sont exprimées les politiques à 20 ans d'écart quasiment, quoi.
Bonsoir tout le monde. Moi aussi, hein, je remercie évidemment le Festival Origine Contrôlée de l'invitation de pouvoir poser ce débat-là. Je pense que déjà, il y a quelque chose qu'on peut se dire, c'est que le Zied Bouna, c'est des prénoms, voilà, qui 20 ans après sont connus de tout le monde, qui sont, et je pense que c'est important de le dire, comme celui de Pipo dans le quartier, mais sauf que là c'est à l'échelle nationale. Zied Bouna, c'est un repère politique et culturel pour des jeunes qui aujourd'hui ont 14-15 ans. Et ça, je pense que c'est important de l'avoir en tête, parce que cette référence culturelle-là, on la doit, parce qu'on va en parler du coup évidemment, pas au champ politique ou au champ médiatique, mais on la doit à des acteurs associatifs qui ont fait vivre cette mémoire qui est une mémoire politique, d'accord, de ce qui s'est passé. Je pense que ce que vous avez fait là, d'introduire le débat par, en fait, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Je pense que c'est fondamental, c'est très important de rappeler. Et en même temps, je pense que c'est, voilà, il y a aussi un côté positif dans le sens où Ziad et Bouna, c'est à nous, d'une certaine manière. Et moi, aujourd'hui, quand j'entends leur prénom bah, dans des morceaux de jeunes rappeurs qui émergent dans un quartier et qui ont 17-18 ans, je me dis, bon, bah, ça, c'est quelque chose qui est gagné quand même contre le contexte politique général depuis 2005 et contre le contexte général de l'époque, parce que du coup, je reviens, si je comprends bien ta question, ça là, hein, c'est la solitude politique des jeunes des quartiers qui se révoltent en 2005. Elle est très importante, et même on aura le temps d'en reparler, paradoxalement elle est même encore plus importante qu'en 2023. C'est pas vraiment la même réception par le champ politique, hein, des émeutes, mais ce qui est sûr, c'est que ce qu'on peut dire, c'est qu'en 2005, en fait, il y a presque personne dans la parole autorisée dans la sphère publique qui dit que ce qui se passe c'est de la politique. Et là, faut même nous en tant que chercheurs balayer devant notre porte, entre guillemets, c'est-à-dire qu'y compris dans le monde de la recherche, dans ceux qui travaillent sur les quartiers populaires, très peu disent « Attendez, là, c'est une mobilisation politique. » Et ce retard, je pense que c'est quelque chose aussi qu'il faut souligner. Il est rattrapé au cours des années 2000 et 2010. Il n'est pas rattrapé par le monde politique. Il est rattrapé par des mobilisations formés dans les quartiers populaires, dont Assez-le-Feu est un exemple national.
On en parlera.
Mais un exemple qui, en fait, illustre, hein, ce qui s'est passé dans beaucoup de territoires, c'est-à-dire suite à 2005, des mobilisations, souvent sous forme associative au départ, qui considèrent qu'en gros, c'est de leur devoir de taper à la porte du champ politique et finalement faire ce que le monde politique n'a pas fait en 2005, c'est-à-dire reconnaître la force politique de ce qui était en train de se passer. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très important, parce qu'on ne comprend pas, là, on est tous dans le 20 ans après. Et je pense que penser le 20 ans après, c'est aussi regarder ce qu'on a réussi. Parce que c'est vrai que le discours aussi selon lequel, voilà, en gros, comment ça se fait qu'on n'arrive pas à... Comment ça se fait que ça se répète d'une certaine manière, il faut aussi se dire que déjà que ça se répète, c'est logique, voilà, au regard de la situation objective. Et en même temps, bah, y a quand même des acquis qu'on doit aux mobilisations des quartiers au lendemain des révoltes. Et ça, je pense que c'est des choses qui sont, comme tu voulais nous projeter sur l'avenir, je pense que si on veut prendre un peu d'avance sur cette question-là, c'est peut-être aussi de ça dont il faut parler.
Et mais donc du coup, juste aussi, donc toujours, et après on va, voilà, on continue, mais ça me paraît important, je disais tout à l'heure, c'est quand même dans l'événement politique, et d'ailleurs pour moi ça témoigne de l'événement politique que ça a été. Donc en 2005, Dominique de Villepin, qui était Premier ministre, a décrété l'état d'urgence. Hein. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'était la première fois depuis la guerre d'Algérie, en France hexagonale, que l'état d'urgence était décrété. Je dis en France hexagonale, puisqu'il y a eu un cas différent qui était en Kanaky, Nouvelle-Calédonie, où l'état d'urgence avait été décrété. Donc quand même, c'est quelque chose de fort. Ça veut dire que l'état d'urgence, voilà, en deux mots, je sais pas comment, la législation, la constitution française, ce qu'a montré Cédric Cobert, ça veut dire, tout à l'heure, il a montré une une de presse, ça veut dire c'est la possibilité de fermer les théâtres, d'interdire la presse, c'est ça. Bon, ça n'a pas eu lieu, mais en fait, ça a été ça. Donc, il y a quand même eu une réaction politique. Julien, je veux bien que tu dégaines là-dessus.
Alors, peut-être trois points sur la réaction politique. Bonsoir à tous et toutes. Merci beaucoup pour l'invitation et pour l'organisation de ce débat. Moi, j'ai un peu peur, pour être tout à fait honnête, que les 20 ans de 2005, on passe un peu à côté. Moi, j'ai été frappé après 2023 combien L'invisibilisation politique et médiatique était allée assez vite, on était passé à autre chose, comme s'il ne s'était rien passé, alors que je pense, comme ça a été dit, que c'est des jalons importants de l'histoire récente de notre pays, quoi. Alors, les réponses politiques en 2005, et pour faire le parallèle avec 20 ans plus tard, où est-ce qu'on en est? Alors moi, je voulais souligner trois points. Effectivement, la réponse sécuritaire et répressive considérable, au fond, et tu l'as pointé avec cet état d'urgence, dont la dimension symbolique est évidemment tout à fait importante avec son relan postcolonial, pour le dire comme ça, qui explique des choses sur la situation des quartiers populaires aujourd'hui. Mais je voudrais pointer deux autres éléments. Un, alors je me suis replongé un peu par curiosité hier soir dans le discours prononcé par Jacques Chirac à l'époque, quelques jours avant la fin en fait. Hein, on est à peu près à la mi-novembre 2005. Et je vous conseille de regarder ce discours contraste en fait, mais tellement, moi je ne suis pas chiracien, je fais mon coming out tout de suite, mais qui contraste quand même, mais tellement avec les discours après 2023 et l'état du débat public aujourd'hui, puisque d'un côté, il a un discours très martial et très répressif, mais en même temps, il a cette formule, je veux rappeler que tous les enfants des quartiers populaires, quelles que soient leurs origines, sont des fils et des filles de la République. On n'a pas entendu ça après 2023. On entend plutôt aujourd'hui « abat le voile », en fait, ce qui n'est pas exactement, ce qui n'a pas tout à fait la même signification. Et j'ai été frappé en fait en relisant ce discours. Alors comme souvent chez Chirac, c'était un discours, et je suis pas sûr que dans les faits, ça a eu beaucoup de déclinaisons. Il parle quasiment la moitié de son discours de discrimination, en fait. De discrimination, le CV, le racisme, les rapports avec la police, etc. Et donc, il a quand même une lecture relativement politique des origines structurelles politiques de ce qui vient de se passer. Tout ça pour dire qu'on en est très loin aujourd'hui. Un des effets quand même des révoltes en 2005, ça a été quand même tout un ensemble de... On a renforcé la halle de la haute autorité de lutte contre les discriminations qui commençait à se mettre en œuvre à l'époque. Il y a des politiques publiques qui se lancent. Une des raisons qu'au fond les choses se répètent, c'est qu'on est très loin d'avoir fait suffisamment par rapport à l'urgence sociale qui se décrétait alors. Mais quand même, je crois que ça dit des choses sur l'état de radicalisation, d'extrême droitisation du débat public et du champ politique quand on se reporte 20 ans plus tard. Et donc ça, c'est pour la réaction au plus haut sommet de l'État et sur l'incapacité du président de la République à avoir des mots de cet ordre-là et plus équilibré simplement qu'une seule réponse sécuritaire en 2023. Deuxième mot, pour pas être trop long et pour rebondir sur ce que disait Ulysse, et là un peu en front renversé par rapport à ce que je disais à l'instant, c'est quand on regarde au fond les réactions de la gauche à l'époque, tu disais la politique, mais les réactions de la gauche en 2005, ils sont passés complètement à côté de l'histoire, au fond. Le PS, le PC, les Verts, la LCR à l'époque était peut-être plus nuancée, lutte ouvrière, ont condamné au fond en dépolitisant ce qui était en train de se passer, en les rabattant sur des phénomènes simplement de jeunes énervés, de barbares, violents, quoi. Hein, et il y avait un alignement quand même dans le champ politique, je vais un peu vite ici, il faudra apporter des nuances, et moi je crois quand même, je me projette sur la suite, que les réactions politiques à gauche, en 2023, ont été significativement différentes de ce qu'elles avaient été en 2005, ce qui témoigne quand même qu'on a construit des choses en 20 ans et qu'une partie des forces politiques de gauche ont bougé de ce point de vue-là par rapport à la question des violences policières, par rapport à la question du racisme systémique et par rapport au traitement qu'on inflige aux habitants des quartiers. Donc, moi, je ne suis pas très optimiste quand même globalement de l'état du rapport de force politique aujourd'hui. Malgré tout, il y a des choses qui ont bougé. Quand on compare 2005 et 2023, on n'en est quand même pas tout à fait au même point.
Oui, il y a eu Harry Roselmack aussi ensuite qui a été présenté le JT. Donc, mais c'est anecdotique, mais pas tant que ça. Peut-être par rapport à cette question, Mohamed. Bon, ensuite, vous avez tout de suite, Nagel l'a évoqué, créé Assez le feu. Et puis tu as été en première ligne dans ce contact justement avec ces politiques-là. Et bon, voilà, et depuis 20 ans, alors, pareil, je vais un peu vite, mais voilà. Donc du coup, moi, je signale quand même, il y a eu un certain nombre de faits. Alors, je vais prendre de notre côté à nous, en tant que du côté des militantes et des militants des quartiers, des associations, la création d'Assez le feu. Moi, je me rappelle, nous, à l'époque, on avait aussi... Il y avait eu la création du Forum social des quartiers populaires en 2006, l'appel des indigènes de la République, c'est aussi après... donc c'est toute une série comme ça de réactions. qui vont quand même jeter, je ne sais pas si, ou 20 ans après, si on a beaucoup avancé de notre côté, ça c'est un autre sujet, mais qui ont quand même jeté les bases d'un espace à investir, non, Mohamed ?
Oui, tout à fait. Après,
si vous n'êtes pas d'accord entre vous, allez-y.
Je voudrais aussi répondre à Julien et ainsi de suite. L'absence et la disqualification de ce qui venait de se passer, bien entendu, elle a été portée par nos responsables politiques. C'est pour ça que vous n'entendrez pas de ma bouche le mot émeute. Parce que rien que le mot émeute disqualifie ce que ces jeunes, ou moins jeunes, étaient en train de se révolter parce qu'ils estimaient que leurs conditions de vie n'étaient plus supportables. Ziad Ibouna et la goutte d'eau qui ont fait déborder le vase dans une frustration, dans une non-considération d'une population qui vit dans ces quartiers et qui malheureusement est souvent pointée du doigt comme un réservoir de coupables, même quand il n'a pas le droit au chapitre et qui n'est pas associé à une décision, on le pointe de responsable. Et rappelez-vous à cette époque-là, pour essayer justement de ne pas transformer ce qui venait de se passer parce que c'est pas rien, je vous dis honnêtement, on en a eu des révoltes dans différents quartiers. Il y a eu ce que tu rappelais, il y a eu ce qui s'est passé à Vaux-en-Velin et d'autres. Et donc il y en a eu. C'est resté sur un quartier. La différence, c'est que là, ça s'est propagé dans toute la France. Et en dehors de la France, parce que, y compris chez les ultramarins, il y a eu aussi cette révolte. Ça veut dire qu'on a dépassé la question de dire on est désénervé.
C'était 300 villes en France.
Exactement. Donc, ceux qui ont tout de suite réagi, et puis bien sûr, ils ont été aidés par la presse et les médias, de pouvoir scénariser ce qui venait de se passer, en continuant à focaliser en disant, en fait, si ils se font défoncer comme ils sont en train de se faire, c'est qu'ils l'ont mérité. Voilà. Responsable politique parle d'émeute directement. Trouve les coupables, rappelez-vous à l'époque, démission des parents, polygamie, rap, en fait, tout ce qu'ils voulaient, sauf de se dire, est-ce qu'ils se sont pas plantés dans les politiques publiques qu'ils ont menées dans ces quartiers ? En gros, c'est pas de notre faute, c'est de leur faute. C'est eux qui ont décidé de ne pas mener les bonnes politiques publiques dans ces quartiers en continuant à les considérer comme une exception. Et le fait que je rappelle ça, c'est que la marche de 83 et la première génération issue de l'immigration, qui était très politisée, avait décidé de poser un acte politique, parce que c'est un acte politique, pour revenir un peu dans le rappel, par une marche, parce qu'ils en avaient marre des crimes racistes, des bavures policières, et ils demandaient à l'époque d'être traités dans du droit commun et non pas comme une exception. On se retrouve, après 2005, à ce que, derrière, ce message continue à être politisé. Donc, notre démarche à nous a été tout de suite de dire non, on ne peut pas rester spectateur de ça. Il faut que derrière, on le politise. Et le politiser, ça veut dire que, puisque ils sont en train de nous pointer du doigt comme si on était coupable de ce qui venait de se passer, nous, on va simplement leur dire qu'ils sont coupables des politiques publiques qu'ils ont menées depuis très longtemps. Donc, par rapport à ce qui s'est passé avec Naël, nous, quand on a pris à bras-le-corps le truc, c'est qu'on avait en face de nous un enjeu. C'est que, rappelez-vous, on avait un ministre de l'Intérieur qui n'avait comme objectif c'est de devenir président, et son seul fonds de commerce, c'était l'insécurité. Et donc, plus on nous montrait des images, plus nos responsables politiques montaient au créneau et plus ils mettaient les mots dessus, ils essayaient tout simplement d'invisibiliser en fait ce mouvement de masse qui est en train de parler de conditions de vie. Voilà. Et la question de Naël, paix en son âme, la différence, c'est que il y a eu des réseaux sociaux et il y a eu des images, ce qu'il n'avait pas eu du temps de Ziad Ibouna. Donc, ces faits se sont suivis aussi avant ça, Quand nous, on parlait de violence policière, l'opinion publique regardait ça et disait, en fait, si la police elle les arrête, elle les contrôle, ils le méritent. Il a fallu que les gilets jaunes puissent être confrontés à ces violences policières pour qu'on reconnaisse la question des violences policières. C'est-à-dire qu'en fait, s'il n'y avait pas eu ces images, on serait encore peut-être à ce que nous on serait peut-être les seuls à parler de violences policières et pas tout le monde pourrait parler des violences policières. Donc ça veut dire qu'en gros, il y a eu ce phénomène. Et s'il n'y aurait pas eu la vidéo de Naël, je ne suis pas certain que peut-être cette gauche aurait pu peut-être porter le truc comme il se doit. C'est juste mon interrogation. Peut-être que je me trompe. Mais je me dis de fait que comme il y a des images qui venaient appuyer quand même la chose, ça a permis quand même d'apporter un éclaircissement et de la lumière sur ce que certains vivent et dont d'autres ne les vivent pas et souvent peut-être les pointent du doigt comme s'ils étaient responsables.
Même audio, une mémoire sonore.
Je vais prendre peut-être... Mais vraiment, il faut que ce soit rapide. Je vous demande ça pour qu'on puisse revenir parce qu'on n'a pas fini de discuter. Je vais bien prendre deux... Mais il y a la première, ça a été... Là, j'en ai déjà quatre, donc j'avais dit deux. Donc ça veut dire soit vous faites 2 minutes chacun. Ouais, allez, vas-y.
Oui, moi, j'ai une réaction par rapport justement à tout ce qui est politique de gauche. Moi, j'étais à Nanterre, à la fac de Nanterre, en Sciences Po, master de Sciences Po à la fac de Nanterre, au moment des événements. Et en fait, moi, je me rappelle qu'à ce moment-là, on était un peu tous dans cette optique de gauche, et je pense que justement 2005, ça a été le moment d'une prise de conscience pour les personnes de gauche qui ne vivaient pas dans ces quartiers. Et je pense qu'effectivement, si dans 2023 derrière il y a eu parce que vraiment c'était ça. Nous en master, on était là, on avait une camarade qui vivait dans ces quartiers et on lui demandait, on n'avait pas d'infos, on n'arrivait pas à trouver les infos on lui disait qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe et tout, et elle nous disait c'est la guerre. Ils disaient c'est la guerre, etc. Et les seules infos qu'on avait, c'était ça, parce que malheureusement, nous, on ne vivait pas forcément dans ces quartiers, etc. Et c'était compliqué. Voilà, je pense qu'il y a ça, en fait, qu'il faut aussi se rappeler, c'est qu'en fait, la droite, elle a amené tout ce truc de racisme, etc. Et en face, la gauche, ils étaient éberlués, quoi. Ils ne savaient pas quoi faire, ils ne savaient pas quoi dire et ils ne savaient pas comment réagir. Je pense qu'il y avait beaucoup de ça.
D'accord. Je crois qu'il y avait là, juste à côté, ensuite il y a Philippe, et ensuite il y a un monsieur au fond, et ensuite on reviendra là, voilà. Pareil, s'il te plaît, rapide.
Ok. Non, moi, ça va être un bémol aussi par rapport à ce que tu as dit sur Naël, c'est que, oui, d'accord, il y a les réseaux sociaux, oui, d'accord, il y a la vidéo, mais en attendant, son meurtrier, son assassin, il est toujours flic. Non seulement il est toujours flic, mais il a gagné plus d'un million grâce à ça. Ne me dites pas que l'État n'est pas capable de bloquer une cagnotte, ça, c'est pas vrai, quoi. Moi, je suis scandalisé par ça. C'est-à-dire qu'il y a une double... Je fais très court. Il y a une double radicalité qui s'est créée. Il y a à la fois, oui, c'est ce que disait Eve juste avant, il y a effectivement une prise de conscience réelle et il y a des choses qu'on jouait qui fait qu'on ne peut plus dire que ce n'était pas... Voilà. Et en même temps, il y a des gens qui trouvent normal qu'on assassine un gamin juste parce qu'il roulait sans permis.
Ensuite, je crois qu'il y avait monsieur au fond. Ah, il y avait Philippe. Pareil, Philippe, s'il te plaît.
Ouais, je vais essayer d'être très très court. Question. Ouais, c'est une question. Est-ce que. Et alors, le tactique collectif, voir et comprendre, Delart, on en a plein à Toulouse. Est-ce qu'il n'y a pas un problème avec l'incarnation politique de la jeunesse dite des quartiers qui se reconnaît pas dans un mouvement politique. Est-ce que les mouvements politiques ont du mal à capter? Enfin, tu vois, est-ce que depuis effectivement la marche des beurs, qui on va dire était peut-être la marche la plus politique, il y avait déjà cette envie-là et elle se concrétise pas. Il faut peut-être pas justement, j'en aurais fini, que ça soit à part des mouvements politiques déjà existants, mais je sais pas. Voilà, je suis dans cette confusion-là.
Oui, c'est une question à poser. J'aimerais savoir. Et les gens des quartiers, au Mirail, comment s'éloignent la vie? Quels métiers sont prédominants dans les quartiers? Ce que je comprends, c'est les transports, la sécurité privée, les nettoyages. Et je voudrais savoir quels métiers.
D'accord. Alors, juste un truc pour... voilà, il y a des avis qui ont été exprimés, des questions intéressantes. Et après, moi aussi, ce que je, dans nos discussions, ce que... Alors, c'est super important ce que tu as dit sur la double radicalisation et tout. Mais du coup, comme on est plutôt dans un espace, on va dire, où globalement, il y a plein de constants, on va être OK. J'ai bien envie aussi qu'on s'interroge sur nous, hein, en fait. Hein, voilà. Et donc, du coup, cette question qui vient d'être posée... ta question est tout à fait valable. Excuse-moi, c'est pas la question. C'est vraiment intéressant. Mais voilà, les conditions sur la question que le monsieur vient de poser. Alors, il se trouve qu'il n'est pas à la Julien. Il n'est pas à la table le livre que nouveau. Comment il s'appelle ton bouquin ? Nouveau peuple, nouvelle gauche. Mais vous, si vous voulez, il sera ombre blanche demain. Mais non, mais pourquoi je le dis ? Parce qu'il parle des métiers et je sais qu'il y a un article sur Uber. Qui est très très intéressant. Donc voilà. Mais voilà, donc du coup, sur la prise de conscience de la gauche, nous, est-ce qu'on incarne ? Comment ? Et on reviendra, Ulysse, il n'a pas beaucoup parlé. Moi, ça m'intéresse beaucoup sur ça veut dire quoi aujourd'hui la politisation ? C'est quoi ? Est-ce que c'est le truc classique, formel ? Moi, je suis un militant politique, j'ai 60 piges, voilà, je suis identifié comme ça. Mais c'est que moi, la politisation ou que... Non, mais voilà. Quelles sont les formes où ça m'intéresse, quand même ? Allez-y. Nagel avait pris le micro, donc je pense qu'elle était partante.
Alors, moi, je suis pas là pour parler politique, mais je crois que c'est intéressant parce que, du coup, c'est plus le vécu d'un territoire... Hein. Donc pour répondre à la question de monsieur, effectivement, sur le Grand Mirail, on a plus de la moitié de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. On a effectivement des jeunes qui quittent le circuit scolaire, alors qu'en France, on est sur une obligation scolaire à 16 ans. On a des jeunes qui passent dans les mailles et on sait que le vide... laisse la place à autre chose. On a des jeunes aussi qui sont qualifiés, mais qui ne vont pas trouver de travail parce que discriminés par rapport à l'adresse, parce que discriminés par rapport à leur nom. Et politiquement, on a mis en place la fameuse discrimination positive. Donc ensuite, pour répondre à votre question... je crois que ce qu'on a loupé, en tout cas, je parle moi de ma place, je crois que ce qu'on a loupé, c'est qu'on n'a pas écouté cette jeunesse, en fait. On ne l'a pas écouté. On n'a pas écouté sa souffrance. On n'a pas écouté son désarroi. On était, en fait, en réaction d'agir, quoi. Et dans cette réaction d'agir... on a pu faire à la place, on a pu parler à la place de ses habitants. Et c'est comment aujourd'hui on renverse la vapeur. Voilà, mais ça n'engage que moi. Aujourd'hui, je me dis, moi, comment je n'ai pas réussi à faire en sorte que des jeunes puissent exprimer leur opinion, de faire en sorte que les jeunes puissent revendiquer leur révolte sans forcément être dans cette violence. Et je pense que on est toujours dans l'anticipation de ce qu'ils vont penser ou de ce qu'ils vont faire, puisque de toute façon, le résultat est là, puisque les politiques disent tout, systématiquement, mais ils vont casser. Donc, il n'y a pas de surprise, en fait. Il n'y a pas de surprise. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à cette question, mais voilà. Je pense qu'on a loupé quelque chose.
Mais tu mets le doigt sur vraiment. Moi, je vais juste te rejoindre, puisque tu n'as pas réussi, je n'ai pas réussi. Et on a toujours ce sujet-là.
Exactement.
Qui se pose à nous. Et du coup, c'est pour ça que Ulysse amène ce qu'il... Alors, Ulysse, il a écrit un livre qui s'appelle « Streetologie ». Donc, il est là aussi. Non, mais au-delà de... C'est pas de la promo. Pourquoi je dis les bouquins? C'est parce que quand même, dans
les
bouquins...
Tu peux, vas-y.
C'est vrai que, bon, comme je prends 30%... donc, non, mais parce que dans les bouquins, ça va plus loin, vous développez votre pensée. Dans les interviews que Mohamed a fait, là, il en fait beaucoup. Voilà. Mais non, mais pourquoi je dis ce livre-là, il est aussi sur la question des savoir-faire politiques, de la politisation qui n'est pas toujours dans les canons de ce que nous, on peut faire, et notamment... celle de la jeunesse, quand même, quoi. Donc peut-être, voilà, est-ce qu'elle est dépolitisée, cette jeunesse, ou... bon.
Parce que c'est sûr que, de toute façon, si on parle des émeutes, ce qui est intéressant, c'est de parler de la dimension politique des émeutes. On est là pour ça, quand même. Et je pense qu'on est tous ici d'accord, dans cette salle, sur la dimension politique des émeutes. Donc maintenant, la question, en effet, c'est plus se dire, bon, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit toutes les phrases faciles, comme « tout est politique »,« ils se révoltent, c'est de la politique », d'accord. Bon, bah du coup... si on veut aller un peu plus loin, comment ça se fait qu'à la fois c'est de la politique et qu'en même temps il n'y ait pas eu dans la suite de 2005 des listes citoyennes issues des quartiers populaires dans toutes les villes qui font des 15-20% parce que les émeutiers se sont transformés en électeurs ou en électrices? Bon, voilà, c'est pas ce qui s'est passé. Après, en même temps, ce qui s'est passé n'est pas non plus à des années-lumière de ça. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut rappeler. Moi, mon travail, c'est je travaille sur les pratiques politiques dans les quartiers populaires, et c'est compliqué parce que justement il faut essayer de dire deux choses qui sont contradictoires. La première chose, c'est d'abord dire la rupture entre les mobilisations et notamment même les mobilisations de jeunes dans les quartiers et le champ politique, c'est une idée un peu fausse. Dès la fin des années 1980, dans beaucoup de villes en France, il y a des mobilisations qui partent d'associations de jeunes qui prétendent participer à des élections locales. Donc ça veut dire qu'ils s'inscrivent très tôt dans l'idée qu'ils font le constat que tu fais de la souffrance, des discriminations, qui ont dans leur revendication la lutte contre les crimes racistes, contre l'islamophobie, hein, tout un tas de revendications qui sont présentes aujourd'hui dans la mobilisation des quartiers, mais qui l'étaient déjà dans les années 80, et qui font des listes aux élections, participent, mettent la pression à des pouvoirs locaux, etc. Donc, quand on travaille sur la politisation dans les quartiers, déjà, il faut toujours rappeler qu'il y a une histoire qui est tout le temps oubliée. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a des mobilisations des quartiers, je ne sais pas si vous faites la même remarque, on a toujours l'impression que c'est nouveau. Les gens des quartiers, c'est les éternels nouveaux entrants dans le champ politique. C'est des éternels jeunes. Hein, même ça, là, il est encore jeune.
Ah, moi, je suis jeune. Ouais.
Non, mais...
C'est l'avantage quand tu es militant des quartiers, tu es jeune.
Tu es toujours jeune partout. Voilà. Non, mais c'est intéressant. C'est pour montrer qu'en fait, il y a toujours une négation de l'histoire des mobilisations des quartiers qui fait qu'en fait, on découvre toujours la lune, alors qu'en fait, les mobilisations des quartiers, y compris dans le champ le plus électoral, le plus classique, c'est quelque chose, en fait, déjà de très ancien dans la politique française. Et donc ça, c'est le premier élément. Et comme je vous disais, c'est un peu compliqué parce qu'il faut penser... Un autre truc un peu contradictoire, c'est moi ce que j'appelle les mobilisations ordinaires, c'est-à-dire tout ce qui se passe dans l'échelle de la vie quotidienne des quartiers, qui relève de la politique, mais bon, qui très souvent, y compris par ceux qui portent ces actions-là, t'en as donné l'exemple, je suis pas là pour parler politique. Ouais. De la même manière, voilà, moi dans mes entretiens, quand je fais des enquêtes sur la politique dans les quartiers, la première chose en général en entretien que... mes enquêtés me disent, c'est « Non, mais toi, tu fais des sciences politiques, moi, je ne fais pas de politique, pourquoi est-ce qu'on a un rendez-vous tous les deux ?» Et en fait, très souvent, voire toujours, hein, l'objectif, c'est aussi de se rendre compte ensemble que les pratiques dont on parle, ça relève de la politique. Et les pratiques, il y a beaucoup de pratiques ordinaires dans les quartiers qui se revendiquent comme à distance de la politique, bah parce que l'histoire entre la politique et les quartiers, elle est conflictuelle. Donc comme elle est conflictuelle... Souvent, pour préserver une forme de pureté, voilà, ou de dimension positive dans ses propres actions, on va mettre à distance la politique. Mais cette dimension politique, elle ressurgit dans des moments comme les émeutes. Et tu l'as très bien dit tout à l'heure. Voilà, à Toulouse, on a un peu à rebours, mais on a une énorme mobilisation en 2005 parce qu'il y a eu Pipo et parce qu'il y a une histoire politique, une conscience politique... qui se manifeste et qui se transforme dans une pratique dans un moment où ça devient important.
Mais est-ce que les mobilisations ordinaires, peut-être Mohamed pourra en parler, mais dont on parle, et c'est ça la question en fait. Après, alors que ce soit avec le champ électoral ou le champ politique, voilà, tout à l'heure, Malika était là, elle présentait l'association Isard Attitude qui s'est créée parce qu'il y a eu un drame, hein, parce que c'est souvent, et qui est une association voilà, de quartier qui fait de l'entraide entre les habitants. On a eu la période du Covid où... Bon, sans non plus dramatiser outre mesure, mais tu peux peut-être en parler ou on pourra en témoigner, où les gens, ils se sont entraidés. C'est-à-dire que la dimension liée à la solidarité communautaire... Alors, communautaire, bon, remarque, ici, ça va aller, personne ne va sauter au plafond. Ça veut dire aussi que la communauté, ça peut être la communauté de vie. Hein, attention, quoi. Donc, non, mais tu sais, ben, on ne sait jamais s'il y a... C'est la frontière qui me filme, là, tu vois. Mais il y a d'autres communautés aussi. Bon, bref, peu importe. Mohamed, non, mais tu vois, pour dire aussi, c'est quoi les formes de solidarité, même si des fois, elles ne font pas le lien... Enfin, les formes de la politique, même si des fois, elles ne font pas de lien avec la question du champ électoral... Tu avais envie de répondre, peut-être. Vas-y.
Non, c'est simplement ce que c'était juste pour terminer. Et justement, ça va dans le sens de ta question. Et puis après, je lâcherai le micro. Mais c'est une phrase que je sors souvent, justement, qui va dans le sens de ce que tu dis et qui continue d'aller sur des terrains un peu glissants comme celui que tu viens d'emprunter avec le terme de communautarisme. Mais voilà, c'est une phrase que m'a dit un jeune qui... comme des jeunes comme on en connaît tous, hein, voilà, qui fait plein de choses dans son quartier... un engagement au quotidien, mais qui, évidemment, rejette la dimension politique de ce qu'il fait. Et quand je lui demande pourquoi est-ce qu'il fait tout ça, il me dit, moi, il y a deux choses. La première, c'est que je veux me racheter. La deuxième, c'est que je veux pas que les petits derrière moi, ils vivent ce que j'ai vécu. Et ce qui est important dans cette réponse, c'est que, en fait, la dimension politique, elle est dans le côté, justement, on mobilise des choses ordinaires de la vie... Mais en fait, évidemment que c'est que ça porte quelque chose de politique. Et l'engagement pour les petits dans les quartiers, c'est-à-dire pour les générations qui suivent, c'est quelque chose de très présent, de très fort, de très caractéristique aussi des mobilisations des quartiers. Et l'enthousiasme de s'engager pour les générations futures, c'est un truc qui est hyper légitimé quand c'est, je le dis sans aucun stigmate, les gentils écologistes qui le portent, hein, les générations qui viennent. Et quand c'est porté par des gens dans les quartiers, et souvent porté par des jeunes, souvent c'est des jeunes de 16-18 ans qui disent qu'ils s'engagent pour les petits, qui ont cette conscience-là. Et bien ça, c'est une force politique qui est vraiment caractéristique des quartiers et qui pour moi est la, comment dire, un truc un peu emblématique de cette force politique de l'ordinaire, quoi, dans les quartiers.
Mohamed, là-dessus, parce que sur... Bon, ensuite, alors on est obligé d'aller vite, l'heure avance. Bon, t'as, voilà, fait de nombreuses propositions. Il y a, voilà, t'as été auteur avec Marie-Hélène Baquet d'un rapport, mais 10 ans plus tard, hein, même plusieurs années plus tard, voilà, pour une réforme radicale de la politique de la ville. Donc, t'as proposé du concret. Et il y a aussi, ce qui m'intéresse, c'est du coup, par rapport en lien avec ce qu'on vient de dire, voilà, la création du réseau passe en nous, mais au-delà de ça, à un moment donné, ça m'a, puisqu'on parle de politique, vous parliez de syndicat des quartiers populaires. On est à la Bourse du Travail, donc au siège d'un syndicat. Et d'ailleurs, ce que tu viens de dire, Ulysse, les trucs qu'on évoque pendant le Covid, le quotidien, oui, c'était le Secours Populaire, c'était le Secours Rouge, alors, bon, donc, voilà. Mais du coup, vous avez fait ça, mais toutes vos associations qui sont membres du réseau Passant Nous ne sont pas forcément engagées en politique et pourtant elles sont dans l'action politique ou syndicale. Pourquoi vous avez appelé ça un syndicat ?
On l'a appelé syndicat tout simplement parce qu'on a estimé en gros que tant que vous ferez pour nous sans nous, c'est faire contre nous. Voilà. Et du coup, l'objectif c'était à un moment ou à un autre de s'organiser et de dire que vous voulez ou pas. On sera, en tout cas, dans le plaidoyer, dans l'interpellation, dans le pouvoir d'agir des habitants. Et en fait, notre objectif, c'était... on savait qu'il y avait des dynamiques un peu partout en France. Ces dynamiques, des fois, elles se sentaient un peu seules et un peu isolées. Et c'était de se dire, en fait, on n'est pas tout seul. On est tout un réseau de savoir, d'expertise, d'être en capacité de venir apporter un appui à d'autres, dans d'autres territoires, qui permet simplement de faire marcher cette fameuse solidarité et entraide. Et tu l'as dit, on l'a démontré à différentes échéances, ne serait-ce que pendant la crise du Covid, on peut dire ce qu'on veut. On parle d'une population qu'on pointe du doigt et qu'on continue à marginaliser et qu'on continue à stigmatiser. mais celle qui a fait tenir l'économie française, c'est celle qui habite dans ces quartiers populaires et qui ont porté à bras-le-corps l'économie française. Et certains, aujourd'hui, continuent à les criminaliser, à les diaboliser. Donc ça, c'est des faits factuels. Ce n'est pas juste une fable qu'on raconte, c'est des faits factuels. Ensuite, sur l'aspect politique, moi, je ne partage pas trop votre analyse. Je vous le dis honnêtement parce qu'il s'est passé ce qui s'est passé en 2005. Nos aînés, à l'époque aussi, étaient déjà dans une démarche politique. La marche pour 83 était une démarche politique qui, malheureusement, n'a pas pu aller jusqu'au bout parce que, à côté de ça, on a des partis politiques qui, à un moment ou à un autre, n'ont pas envie de voir émerger une catégorie d'habitants et de population qui peut être brillante et qui s'engage dans le champ politique. Et rappelez-vous, naissance d'une organisation montée par des partis politiques, SOS Racine, qui vient tout simplement dire « Nous serons vos porte-parole et nous vous défendrons, même si on ne vit pas les situations, on sera les meilleurs faire valoir pour pouvoir porter votre parole. » Donc ça, on disqualifie, on invisibilise ces mouvements-là. 20 ans après, même chose. C'est-à-dire qu'en gros, on essaye, et c'est ce que je disais tout à l'heure par les mots qui ont la sémantique, de disqualifier cette révolte sociale qui touche pas un quartier, qui touche énormément de quartiers, par un mot qui est « c'est une question politique ». Et de suite, on la disqualifie par le mot « émeute » pour disqualifier ces jeunes. Quand les paysans ils vont brûler des préfectures, on dit qu'ils sont en colère, ils sont révoltés. Quand c'est des jeunes qui posent un acte politique, on les disqualifie, d'ailleurs, jusqu'à exactement, tu avais raison de le rappeler, l'état d'urgence. Mais après 2005, je veux dire, nous, on a eu un sursaut, en tout cas. On n'est pas resté spectateur. C'est-à-dire que du moment où tu commences à mettre des mots derrière ces mots-là, tu commences effectivement à le poser dans le débat public et politique, tu rentres dans le champ politique. Et je m'excuse, en tout cas, nous, localement, on a lancé une grande campagne d'inscription sur des listes électorales. Parce qu'on savait très bien qu'en fait, on expliquait à une bonne partie de ses habitants de dire ce qu'on est en train de vivre. En fait, on est une partie responsable. Pourquoi ? Parce qu'on est juste spectateur de ce qui se passe. Quand est-ce qu'on va devenir acteur et auteur de nos vies et on va changer les choses ? Donc l'inscription sur les listes électorales a fonctionné. À l'époque, il y a eu des artistes qui sont venus et se sont mêlés. Ça a fait du buzz. Et énormément d'inscriptions se sont faites. Et je vous invite à aller faire des recherches parce qu'il y a une étude qui a été faite. Je crois qu'il y a eu, pendant cette période de campagne, je crois, 3 millions et quelques d'inscrits supplémentaires sur des listes électorales. Et le fait, c'est que la plupart de ces gens qui se sont inscrits sur des listes électorales venaient des quartiers populaires. Donc, un acte et un rapport de force qui vient se rajouter en disant « Nous sommes aussi capables de faire ou de défaire quelqu'un si nous nous engageons définitivement sur ce volet-là. » Et l'émergence de listes citoyennes. Je suis désolé, il n'y en a peut-être pas eu comme on l'aurait aimé, mais ont émergé, qu'on veuille ou non, des listes citoyennes où, à un moment ou à un autre, à des séances locales, ils se sont présentés. Et nous, nous avons fait le pari, parce qu'au moment où on va inscrire des jeunes, et quand on arrive à... Je suis trop long, peut-être, ça, là ?
Ouais, je vais te couper. Mais vas-y, finis ta phrase. Non, excuse-moi. Non.
Si je suis trop long, je suis désolé.
Finis ta phrase.
Je voulais juste te dire que, il ne faut pas avoir peur du rapport de force. Il ne faut pas avoir peur de se compter. Et nous, on a eu une opportunité, c'était... on s'est présenté à des législatives. Des législatives contre un mec qui est Éric Raoult, pour ceux qui le connaissent, un ancien ministre de la ville, un baron qui était député pendant 30 ans, et on s'est présenté face à lui. On sait très bien qu'on gagnera, on n'aurait pas gagné la députation. Par contre, ce qu'on voulait savoir, c'est combien nous, on pèse localement. Et comment, demain, sur la prochaine élection électorale, on va peser. Et quand on est arrivé au dépouillement, on est arrivé deuxième force de la ville. Ça veut dire qu'à partir de là, on savait que la prochaine échéance qui arrivait, les municipales, on nous regarderait différemment, et on viendrait parler avec nous différemment, et on viendrait nous respecter. Et c'est comme ça qu'on a aussi gagné notre légitimité. Voilà.
Je voulais prendre... En fait, je suis pressé pour prendre 2-3 questions. On arrive à 7h30. Oui. Y en a un autre qui s'est présenté aux législatives. Il a failli battre à quelques centaines, même pas, même moins de 100. C'était combien? Il a failli battre Manuel Valls, lui, aux législatives. Il y sera batté. Avant de, il voulait chasser déjà vers Barcelone, mais comme c'est nos amis, il est catalan, donc on l'a repris, tout ça, bon, on était gênés. Donc je vais prendre 2-3 questions encore. Il y a Quider qui est là.
Je vais dire. Voilà. Ok, non, juste dire que moi, ce que je retiens, c'est ce qu'a dit Mohamed, c'est-à-dire que il est temps de se compter. Et nous, on va essayer de se compter à Toulouse aussi.
Et ce que je. Voilà, bon, on va arriver vers là. Il est 7h30, mais il y a Quider qui va parler, il y a Evelyne. Je vais prendre 2-3 questions. On va essayer de. Parce qu'en fait, il y a des choses qu'évidemment, on n'aura pas eu le temps de discuter. J'avais envie quand même qu'on se demande si 2023. C'était quand même pas tout à fait la même nature de soulèvement. C'était dans des endroits différents, peut-être de. Voilà. Donc, mais bon, il y a plein de sujets à creuser. Quider, c'est voilà, à toi la parole. Il y a Evelyne ensuite.
En fait, moi, c'est pas une question que je voulais poser. C'est juste, je voulais apporter un peu plus de matière. Et revenir un peu sur ce qu'a dit Nagia. Très juste. J'ai rien à dire. Par contre, il y a deux choses qui vont peut-être expliquer le fait qu'on n'est pas très engagé, notamment sur le quartier du Mirail, et le fait qu'on ne croit plus, que peut-être aussi expliquer la réaction après la mort de Pipo. Il y a un événement qu'on a oublié, 1993. On a eu un pote à nous, Mohamed, qui, lors d'un cambriolage, s'est fait tirer dessus. Ça, on l'a complètement oublié. Personne n'est au courant ici. Oui, il s'est fait tirer dessus. Nous, on le pensait mort. Donc, il a ressuscité. On ne sait pas comment. Jusqu'aujourd'hui, il a une jambe paralysée. Et tous les matins, quand il se lève depuis ses 17 ans, eh bien, il pense à ce gendarme qui lui a tiré dans le dos. Et nous, à cette époque-là, on s'était mobilisé de façon citoyenne. On avait fait une manifestation en bonne et due forme. Et en fait, le jugement, il a été balayé. Et donc, la police, c'était avant qu'il y ait une prise de conscience justement politique de ces événements-là. En fait, il a été balayé. Donc, le policier n'a jamais rien eu. Je crois que même Mohamed a été condamné à la fin, donc pour vol, etc. Donc, finalement, il a été condamné alors que c'est lui qui était la victime. Donc, nous, en tant que jeunes des quartiers, déjà, on nous a lancé un message très, très fort. Et c'est peut-être pour ça que la réaction a été différente pour Pipo. C'est qu'en gros, on peut vous tirer dessus. Vous allez perdre à la fin. Ça, c'est le côté, on va dire, qui peut expliquer aussi la réaction. Et aussi, je voulais apporter des informations concernant l'engagement dans les quartiers. Il y a une chose aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est que le rap est arrivé dans les quartiers fin des années 80. Nous, on a été l'un des premiers groupes de rap à Toulouse. Et le rap, en fait, c'était le début de la politique dans les quartiers. Il ne faut pas se leurrer. Le Mirail n'a jamais eu son groupe de rap qui a existé au niveau local ou national. Ça, il faut le savoir. Et nous, en fait, on vivait la politique par procuration, parce qu'on écoutait les paroles d'IAM et de NTM qui étaient justement, qui représentaient exactement ce qu'on vivait. On n'a jamais eu ce porte-voix. Donc, et ça aussi, ça a été une frustration de se dire, on avait le Mirail. En plus, Toulouse était une ville précurseur au niveau du hip-hop. Enfin, en fait, Toulouse, au niveau hip-hop, elle est vraiment très, très, très présente dès le départ. Ça veut dire que nous, Toulouse, on a une particularité, c'est qu'on avait des rappeurs de qualité. On a été ignorés et on en veut aussi aux acteurs sociaux, dont notamment la mairie de Toulouse et le festival Racine, qui organisait un festival dans lequel nous, on louait avec notre propre argent le stand pour pouvoir mettre en avant notre culture et notre savoir-faire. On faisait de l'ombre tellement il y avait du monde, c'est-à-dire en gros, quand on arrivait dans le festival, il y avait la foule de la grande scène et il y avait la foule de notre stand. En fait, il y avait quelque chose qui se passait sous les yeux de l'association Caval et des organisateurs exactement le festival de Racine. Et nous, aujourd'hui, je me demande, mais comment une personne qui habite dans le quartier voit ce mouvement se naître devant avec, justement, c'était un mouvement pacifiste, donc on avait quand même la volonté d'écrire de belles paroles, etc. On entraînait beaucoup de monde, notamment des jeunes, et on a été ignorés. Et ça aussi, c'est peut-être voilà, on a eu deux complexes, c'est ce complexe-là, et justement le fait de pouvoir nous tirer dessus sans avoir de répercussions.
D'accord. Juste le temps que tu arrives à Evelyne, juste rappeler, mais c'est pas aussi parce que. Non, c'est d'abord Evelyne. D'accord. D'accord, juste rappeler. Mais bon, c'est important ce que tu viens de dire sur 93. Et sur 98, permets-moi à Nagia de dire, il y a eu donc le soulèvement, les émeutes, comme on disait. Il y a eu aussi la manifestation. Il n'y a pas eu que... Et elle a eu lieu rue de Metz, oui. Rappelez-vous. Oui. Grande manifestation des habitants des quartiers, notamment ceux du Mirail,
en plein centre-ville, de manière tout à fait pacifique. Ouais. Il y a encore des images. Et il y avait des leaders, voilà, deux personnes qui avaient, voilà, qui menaient le mouvement et qui, malheureusement, d'ailleurs, ont été, ont eu des soucis par la suite. Mais bon, voilà, faut pas qu'on oublie d'écrire l'histoire nous-mêmes aussi, quoi.
Merci beaucoup. Bonsoir. Moi, j'aurais une petite question, réaction sur dans quelle mesure, en fait, d'une certaine façon, ces différences de traitement médiatique, politique entre les mouvements des Gilets jaunes, des agriculteurs, comme ça a été mentionné, et les jeunes des quartiers populaires, seraient pas liées, en fait, à une absence de considération du racisme systémique, en fait, dans notre société. Et dans une période où, en fait, on voit aussi une invisibilisation, en fait, des rapports de classe. Et, bon, bah, concrètement, on est quand même à la Bourse du Travail, on s'est engagé de rappeler ce point. Mais je me dis que cette mobilisation, justement, des Gilets jaunes ou des agriculteurs, hein, renvoie à d'autres fractions, en fait, des classes populaires qui sont plutôt, entre guillemets, blanches et périurbaines. Et qui adopte aussi des modalités d'action plurielles, différentes en partie, seulement en partie, de ces jeunes des quartiers populaires. Et d'une certaine façon, en quoi ça participe, quelque part, à toujours renforcer cette stigmatisation et cette, comment dire, le fait de rabattre en permanence donc, ces mouvements sociaux comme étant des émeutes. En les associant justement à cette quintessence du malaise social en France.
Ok, alors il y a Evelyne, il y a Mina qui est au fond, il y a le monsieur, et ensuite il y a Galet, et ensuite c'est les dernières. Voilà, et prenez des notes parce qu'il y a beaucoup de questions que vous allez répondre et clore la soirée, pas conclure, mais au moins la clore.
Oui, je voulais revenir sur quand vous dites on n'a pas réussi, qu'est-ce qu'on a fait, c'est cela. Je trouve qu'au niveau culturel, vraiment les associations de quartier ont promu énormément d'artistes. Je veux dire, le rap est une des musiques les plus écoutées dans le monde. Au niveau de la danse, le hip-hop et d'autres danses, je trouve que vraiment la culture... Alors, est-ce que c'est une façon de la façon de s'habiller, de parler, tout ça, c'est répandu partout. Je trouve que je suis obligée de partir, mais je trouve que la question de la culture et son expansion dans les milieux, dans les quartiers populaires, je trouve que c'est une question intéressante à se poser. Pourquoi c'est là que ça a pris autant d'importance ? Mais je suis désolée. Je trouve que la soirée est passionnante, quoi, en tout cas le débat passionnant, mais je suis obligée de partir.
Pas de souci. c'est vrai que c'est...
Merci, Evelyne.
Ça me permet de dire, et voilà, à chaque fois, après, moi, je dis chaque fois deux mots, et après, ce sera vous qui allez parler. On n'a pas tout raté non plus. C'est-à-dire, il y a eu beaucoup de choses intéressantes, beaucoup de mouvements qui sont construits. Il y a un chapitre dans le livre aussi de Julien Talpin, Le Nouveau Peuple, Nouvelle Gauche, sur les mouvements des quartiers populaires, qui décrit quand même la multitude d'initiatives et qui ne sont pas, qui sont loin de... Voilà, l'histoire, on est en train de l'écrire encore. Et Zebda, bien sûr, évidemment. Merci, André. Et tu sais, c'est difficile de faire de l'auto-promo, quoi. On ne veut pas non plus... Je suis neutre. Mais Yamina, vas-y.
Ouais, du coup, moi, je rebondis sur les jeunes. Mais moi, je vais parler des jeunes de ma place de parent. Donc... Nous, on a des jeunes dans le quartier Isard 3 Cocu en 2011-2012 qui sont petits, qui nous disent « Quand on sera grand, on fera soit policier, soit pompier, soit... » Et plus ils grandissent, plus ils détestent la police. Et là, on se demande ce qui se passe. Enfin, moi, je ne comprenais pas, parce qu'on essaye d'éduquer nos enfants avec les valeurs qu'on a, nous, Et il se trouve que voilà, ils sont déjà ça commence au collège. Au collège déjà, les problèmes commencent. Nous, on est souvent appelés en tant que parents. Et puis on a la place de un peu de parents démissionnaires parce qu'on n'est pas assez présents pour nos enfants. Mais il se trouve que c'est dans le quartier que ça va pas. C'est l'environnement qui va pas bien. Et moi, quand je me suis mobilisée avec Isard Attitude et avec les autres mamans du quartier. J'allais voir les politiques et je leur disais on a tous une part de responsabilité, mais voilà, je disais pas toujours c'est la faute des autres, alors que eux ils nous renvoyaient la faute, mais je leur disais voilà, moi la mienne elle est en bas, mais vous la vôtre elle est assez élevée. Et voilà, donc c'était un problème que j'ai essayé de comprendre. Je voulais comprendre en fait ce qui se passait. Il y avait la rénovation, il y a eu un désastre, nous, en l'espace de 10 ans, hein, c'est plusieurs désastres. Et ça nous a marqué. Moi, je pense que dans le quartier, tout le monde a besoin d'un suivi psychologique. Tout le monde. Parce que c'est très grave ce qui s'est passé. On n'a pas été accompagné comme il le fallait. Ça me touche encore, je suis désolée.
Allez, Yamina. C'est vrai que... C'est vrai qu'on le charge un peu quand même aussi.
Moi, je ne savais pas que j'habitais dans un quartier politique de la ville. Donc, j'ai découvert tout ça avec... J'ai été accompagnée par le centre social et par le tactile collectif en suivant. Et j'ai appris, moi, que j'habitais dans un quartier politique de la ville, que c'était qu'une association et tous les partenaires qui gravitaient dans ce quartier et autour de nous. Et moi, ce que je voulais, c'est qu'on me regarde... Je voulais être à égalité avec les partenaires. Sauf que nous, on nous regardait de haut. Et puis j'ai bataillé pour aller chercher cette égalité et être au même niveau que tout le monde. Et moi, ce que je voulais, c'est dans mon quartier, dans la cité, avec les habitants, travailler sur le vivre ensemble, mais en vrai, quoi. C'est vraiment, on est tous ensemble et on fait ce qu'il faut. Donc nous, ce qu'on a impulsé, c'est une dynamique à partir de l'habitant. Et à partir de l'habitant, donc, on a créé des liens avec les partenaires. Aujourd'hui, ben voilà, aujourd'hui, il y a eu Isar Attitude, il y a la cantine, et puis on a mis autour de la table tout le monde, même les institutions, les partenaires et tout ça, et on arrive à travailler un projet en commun. Donc, on parlait de politique, on me disait, Yamina, tu fais de la politique? Je disais là, non, je ne fais pas de politique. Mais aujourd'hui, ben, je fais la politique que je préfère, et puis c'est celle que j'aime, et c'est celle qui marche. Donc, j'aimerais que tout le monde en prenne... conscience et puis qu'on puisse tous ensemble travailler sur le vivre ensemble en vrai. Bon, après, j'ai plein de choses à dire.
Ouais, je suis obligé, je te presse parce que on a déjà dépassé l'heure largement. Alors, Zienne, après, il y avait Galet, j'ai repéré. Donc, il y en a trois, là, c'est chaud, là, quand même. Je crois que monsieur, je sais que vous avez un truc à dire pour la Palestine, je vous le dirai après. Mais non, mais je suis. Là, il est. De toute façon, le maître de l'horloge, Taïeb, il est quel... Il faut qu'on arrête, d'accord. Ouais. Il y a Rossé après à. Donc Zienne, Galet.
Allez, moi je vais être rapide. Donc depuis tout à l'heure, on a nommé les quartiers, quartier populaire, madame, merci, quartier politique de la ville. Quand on parle de ces quartiers, moi je pense qu'il faut faire attention parce qu'on demande aux habitants de ces quartiers. Ce qu'on ne demande pas au reste de la ville. On leur demande donc tout un tas de choses, mais on oublie que ce sont des territoires qui cumulent toutes les problématiques sociales, problèmes de logement, problèmes d'éducation, le tissu associatif. Tout à l'heure, la question était posée, on a échoué. Oui, effectivement, on a échoué, mais pas complètement. Mais on a aussi notre part de responsabilité. On parle de la réforme de la politique de la ville. Moi, je pense qu'on devrait carrément l'éradiquer et ne parler uniquement de droit commun, parce que depuis 2014, en fait, les crédits politiques de la ville se sont substitués aux crédits droit commun. Et on demande donc aux assos de traiter la précarité avec des moyens précaires. Donc moi, je pense que les assos, on a vraiment une grande part de responsabilité. Je pense rapidement là, aux adultes relais. Voilà, qu'on a. Alors c'est vrai, hein, il faut penser à ces personnes aussi qui ont bénéficié de ces contrats parce que ça leur donnait du boulot. Mais à un moment donné, moi je pense qu'il faut poser une réelle réflexion. Le triptyque républicain, il y a égalité. Et bien je pense que, vous l'avez dit hein, tout à l'heure, hein, On parlait d'inégalité. Eh bien, à un moment donné, il va falloir rétablir un petit peu la balance et peut-être aussi nous regarder en face et de se dire qu'il faut arrêter de croire qu'on va faire des miracles avec des miettes, parce qu'il y a une hypocrisie sans nom. Hein. On nous dit, voilà, on va vous donner un petit peu. On le voit actuellement, hein, le tissu associatif toulousain, mais partout en France, hein, les subventions ont baissé, c'est le chantage à la subvention. Et ça, moi, je dis, à un moment donné, il faudrait qu'on arrête, il faudrait qu'on prenne de vraies décisions. Ou sinon, on ne s'en sortira pas.
Merci. C'est vrai qu'on est en train d'assister à un plan social qui ne dit pas son nom, mais je crois que c'est un des plus importants plans de licenciement. C'est pas même pas, il y a pas, parce qu'il n'y a pas social derrière un plan social, mais c'est vraiment galé. Après, il y a le monsieur, je donnerai la parole, il l'a levé. Mais vraiment très, très court, s'il vous plaît.
Je fais très court. Merci, bonjour galé. À tous. Pour commencer, c'est si on a une. Remercier le tactique collectif d'organiser ces temps-là. C'est important qu'on puisse parler des quartiers. Et si on parle des quartiers dans un contexte de violence policière, déjà pour commencer, j'aimerais avoir une pensée pour Bilal, un père de famille qui a été assassiné. Un père de famille qui a été assassiné en janvier, donc cette année, en 2025. Donc ça me permet de lui rendre hommage, mais ça me permet aussi d'expliquer là où je veux en venir, dans le sens où... Si on parle des quartiers populaires et des violences policières, j'entends le besoin et l'importance de parler des situations particulières. J'ai bien aimé l'expression de mémoire collective. Effectivement, les morts dans les quartiers, c'est des mémoires qui appartiennent aux habitants et pour qui c'est important de garder ces personnes en vie à travers nos mémoires. Mais c'est important de rappeler que derrière ces cas particuliers, c'est un système qui est fait de manière généralisée et qui arrive hyper souvent, très souvent, et ça permet de parler en fait du fait de la gestion coloniale des quartiers. Et je trouve qu'en fait dans le débat, on l'a pas assez porté, et je pense que c'est important de le marteler, parce que ça vient pas de nulle part. Ça vient pas de nulle part, la gestion de la manière dont on traite les quartiers, les policiers qui viennent, c'est pas un hasard. Il faut arrêter de parler de bavure policière. C'est des crimes policiers, ça fait partie du système, c'est quelque chose qui est normal, donc ça paraissait important. Je vois ça, là, j'essaie
de faire. Je te mets beaucoup de pression, désolé.
Vas-y, ok, je conclue. Mais juste, par contre, il y a une. Parce que, aussi, moi, c'est la question que vous posiez du à côté de quoi on est passé, comme si on était responsable. Je pense que c'est important aussi de rappeler que le premier et le seul unique responsable, c'est l'État colonial. C'est l'État qui est le responsable. Donc, camarades, moi, je sais le boulot que vous faites. N'ayez pas peur, merci encore aujourd'hui, vous faites vivre la mémoire et tout. Merci pour le travail que vous avez fait et la transmission que vous donnez. Mais n'oublions pas qui est le premier responsable et contre qui il faut se battre.
Donc il a rendu hommage à un jeune père de famille. Et il y a une... Parce qu'on parlait des formes d'organisation qu'on peut se donner. Donc il y a le comité Vérité et Justice pour Bilal, dont je vous invite à suivre les mobilisations et les appels à soutien. Ils sont présents dans la salle. Je les salue bien amicalement. Driss et Leïla. Dernière, voilà. Et, du coup, t'as vu, lui, j'ai mis la pression, toi, comme t'es le dernier, c'est... Des fois, je suis un peu répressif. Bon,
je vais être ultra rapide. Première chose, en 2006, j'avais participé à un projet conçu et monté par un éducateur sportif du quartier. La meilleure équipe des quartiers de foot minime a été jumelée avec une commune à Alger. Ils étaient déjà partis. Et là, c'était le retour, et moi, j'étais à ce niveau-là. J'ai essayé d'avoir un peu d'argent, de conseil général, de la mairie, etc., pour que les jeunes, lorsqu'ils viennent ici en France, à Toulouse, d'Algérie, en visite, qu'ils voient autre chose que les quartiers, etc. Et je n'avais jamais rien obtenu de quiconque. Et les seuls qui avaient vraiment financé, c'était un restaurant tenu par une Algérienne, une association qui travaillait sur le Sahara, qui a financé, et finalement, pour l'habitat, c'était le quartier. Ça, c'est un témoignage. Deux petites questions pour le monsieur le chercheur. Excusez-moi.
Il faut faire vite.
Rapidement.
Il y a deux questions, ils en ont une chacun, comme ça.
C'est rapidement. Juste tout à l'heure, vous avez parlé des acquis de 2005. Quels sont ces acquis, pour savoir? Et deuxième chose, pour rejoindre le monsieur, sur la politique publique de la ville par rapport à ces quartiers, on peut avoir une idée générale sur ça, sur l'évolution de ça.
Bon, alors, vous voyez, j'ai été très répressif avec le public et je vais être encore plus répressif avec vous parce qu'on arrive à la fin. J'en profite pour vous remercier. Tu vois, je vous donne 2-3 minutes chacun pour répondre à la question que vous voulez. Donc les trouveurs, c'est pas que des chercheurs, ils trouvent aussi.
Et qu'ils soient aux côtés des militants et des militantes.
Sinon, vous ne seriez pas là.
Non, je ne vais pas répondre aux questions. Je vais rebondir avec sur quelques points qu'on traversait un peu toutes les discussions depuis tout à l'heure. Rappeler toute l'importance quand même de ce qui a été construit depuis 2005, tous les combats qui ont été menés avec assez le feu, passons-nous ici et ailleurs, c'est fondamental. En même temps, moi je pense qu'il faut quand même être lucide sur l'état du rapport de force en fait. Et qu'il ne suffira pas de se dire « mais c'est génial tout ce qu'on a fait pour qu'on gagne en fait ». Moi j'ai fait un livre l'année dernière sur des gens qui sont tellement désespérés, qui pensent que leur seul avenir en fait c'est de quitter ce pays en fait. Et on en est là. Voilà, l'état du rapport de force, c'est l'extrême droite qui est aux portes du pouvoir et les quartiers qui vont se faire défoncer la gueule. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Et je pense quand même qu'on a raté collectivement des choses. Moi, dans les travaux que j'essaye de conduire, en fait, j'essaye de pointer non pas des responsabilités, mais d'analyser, d'objectiver au fond la production de ce rapport de force. C'est pour ça que je travaille, moi, tu parlais à l'instant du rôle de l'État colonial, moi je travaille sur la répression, au fond. Fondamentalement, les libertés associatives, qui ne sont pas qu'une question de montant financier, mais de la façon dont on a traité et dont sont perçus les militants dans les quartiers. Il faut voir le coût que ça représente pour tout un chacun, Mohamed, Salah, et je pense que tout le monde ici le sait très bien, tous ces engagements au fil des années. Et donc la répression est une variable fondamentale pour comprendre l'état du rapport de force. Et en même temps, ce n'est pas la seule. Les divisions dans les luttes des quartiers, depuis 20 ans, ont joué un rôle fondamental. Là, on a avancé. L'Assemblée des quartiers s'est constituée. C'est, en tant que telle, déjà une avancée. Quand on se replace quelques années en arrière, ce n'était pas dit, en fait, que tous ces gens-là se rassemblent au sein d'un même collectif. Et donc y a des choses qui bougent dans le bon sens. Et en même temps, ça ne va peut-être pas suffire. Donc moi, j'avais envie un peu de vous renvoyer la balle et de conclure là-dessus. Qu'est-ce qu'il faut faire, au fond? Est-ce qu'il faut prendre le pouvoir? Est-ce que c'est quand même dans les urnes, d'abord, qu'il faut commencer, etc.? Est-ce que c'est dans le contre-pouvoir, par le travail syndical? Moi, personnellement, je pense qu'il faut marcher sur deux pieds. Je pense par ailleurs que l'option syndicale que tu évoquais tout à l'heure, Mohamed, demeure une option tout à fait juste, mais qu'il faut parvenir à construire des organisations de masse, en fait. Si on perd, c'est parce qu'on n'est pas assez nombreux. Et qu'il faut réussir, et là, moi, j'ai pas du tout la clé, et c'est pas en disant il y a qu'un faucon, mais à être plus nombreux dans les rangs de l'Assemblée des quartiers, de la coordination passe en nous, parce que sinon, en fait, on sera toujours en fait la cinquième roue du carrosse, quoi. Et voilà, donc j'avais envie de vous entendre un peu là-dessus sur quel est l'état de votre réflexion stratégique dans ce contexte quand même qui demeure très défavorable.
On va faire la suite, Ulysse. On va faire tout simplement dans l'ordre, pour arriver jusqu'à Mohamed. Si t'as, voilà. Il y a eu plein de choses qui ont été dites. Je suis désolé, on est vraiment en retard de l'autre côté. Donc, voilà.
Ouais, c'est sûr que c'est compliqué, enfin impossible de répondre aux questions dans ce contexte. Mais merci en tout cas pour toutes les interventions. Il n'y a pas de conclusion au débat qu'on a là. Peut-être moi, juste ce que je voulais dire, c'est qu'on est parti sur la question des émeutes. Moi, je n'ai pas de problème avec ce mot, émeute. D'abord parce que c'est celui qu'emploient les jeunes, qui se mobilisent. Donc on peut dire qu'ils sont aliénés, on peut dire qu'ils sont, qu'ils se retournent contre eux-mêmes, n'empêche que c'est le mot qu'ils utilisent, et que eux, en fait, derrière ce mot, il y a une dimension de contestation de l'ordre établi. Il y a aussi, il faut le dire, une mise au défi qui est d'ordre culturel. Tout à l'heure, on employait le mot de culture. Voilà, moi, je travaille sur ce que j'appelle la culture politique des quartiers populaires. Ça veut dire que je dis qu'il ne faut pas avoir peur de dire qu'il y a une culture caractéristique des quartiers, qui évidemment n'est pas une culture à voir sous l'angle culturaliste ou colonialiste, mais par contre qu'il y a une vraie dynamique de socialisation qui est particulière et qui fait qu'on a un rapport au monde qui est, c'est l'interprétation que j'en fais, elle peut être jugée comme optimiste, mais qui est marqué par la politique et qui est marqué par un rapport de conflit un peu original à l'ordre établi, parce que les quartiers populaires ont une histoire singulière, hybride, mais pas vraiment en rupture. Et peut-être si je veux terminer sur quelque chose de positif, si c'est possible, puis ça continue un peu ce que dit Julien, parce que je suis d'accord avec le constat, c'est que la culture des quartiers, elle a un rapport optimiste à la politique. Et ça, je vais presque dire que c'est miraculeux au regard de l'histoire sociale et du traitement politique des quartiers en France. Et je pense que ce rapport optimiste, c'est on le teste au quotidien. Il y a une aspiration à faire partie d'une histoire collective. Il y a une volonté que cette culture, certes particulière, mais il y a une volonté que cette culture participe à un destin collectif qui est le destin français. Voilà. Et d'une certaine manière, on peut considérer que cette culture, elle a tendance, en tout cas, elle a des velléités majoritaires en France, et c'est une bonne nouvelle.
Nagia, dans tout ce qui a été, tu choisis à quoi tu as envie de répondre, ouais, puisque tu n'as pas le temps de répondre à tout.
Moi, déjà, après 42 ans de travail dans les quartiers, je n'ai plus envie de dire que les quartiers populaires, ils ont une histoire. Les quartiers populaires font partie d'une ville. Voilà, déjà, ça, c'est une première chose. Qu'on arrête effectivement de considérer que les quartiers populaires résonnent différemment. Ensuite, la deuxième chose je rejoins Mohamed, là, peut-être que vous avez réussi là-haut, mais le pouvoir d'agir, effectivement, moi, il me paraît essentiel, mais ce pouvoir d'agir, il ne s'improvise pas, en fait. C'est quels outils on va pouvoir donner à cette jeunesse pour qu'elle crée la surprise, d'inverser en fait cette révolte, cette violence, pour qu'elle pèse lourd, parce que c'est des citoyens français. Et moi, ça me révolte aujourd'hui d'entendre encore dans des réunions partenariales des jeunes issus de l'immigration. Ensuite, ce que j'avais aussi envie de rajouter, donc oui, la mémoire, puis c'est bien de la rappeler, hein, ça ravive les douleurs. Oui, l'histoire de la colonisation, mais demain on fait quoi? Voilà, c'est rester avec ce passé. Je pense que on va continuer dans ce schéma-là, quoi. Moi, j'en suis aujourd'hui intimement persuadée. Qu'est-ce qu'on fait de cette mémoire? Qu'est-ce qu'on fait pour créer le contre-pouvoir, quoi? En fait, c'est ça. Et ensuite, je vais peut-être provoquer, je m'arrêterai là, mais vous pouvez m'insulter de tous les noms. Hein.
Non, il n'y a personne qui va t'insulter. Dis ce que tu veux.
Je vais provoquer, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on va effectivement, alors oui, se battre contre les injustices, oui, se battre contre les bavures policières, mais est-ce qu'aujourd'hui on doit opposer la police à la jeunesse, quoi? Mais c'est pas c'est, la non, société.
Dis ce que
pas,
tu veux.
La société.
Y a personne qui,
non mais je, on est, mais il y a pas de souci. La société, c'est pas ça, quoi. La société, on a besoin d'une police juste. On a besoin d'institutions. On a besoin de jeunesse. On a besoin. Et je crois que si on continue dans ce schéma, effectivement, de propos, on n'y arrivera pas, parce que cette jeunesse qui grandit, ben c'est madame qui le disait, et je suis ravi qu'elle ait parlé, c'est que des jeunes qui voulaient être policiers, aujourd'hui, est la police. Et on ne peut pas continuer comme ça. Nous, dans nos quartiers, pendant un moment, on a vu les pompiers ne pas pouvoir venir dans les quartiers parce qu'effectivement, ils étaient caillassés, ils avaient besoin d'être accompagnés par... Donc, je pense que, oui, le pouvoir d'agir doté, et il faut réconcilier, quoi. Enfin, il faut réconcilier. Que fait-on de cette mémoire et de cette histoire pour avancer, quoi? Voilà.
Mohamed, c'est à toi. Ce que je veux dire, c'est, quand je disais ça, d'accord ou pas d'accord, peu importe. Ce qui est intéressant, là, tu as cette expression-là, ce qu'il faut savoir, il y a mon camarade Mohamed Meshmesh qui est là, Julien Talpet, Ulysse Rabaté était là. L'histoire politique des quartiers populaires, elle n'est pas monolithique. On a plein de points de vue différents, on a plein de manières d'agir. Ça va de l'extrême gauche à... Voilà, j'allais pas dire à l'extrême droite, parce qu'il y en a aussi. Mais ceux-là, bon, ils sont pas là ce soir. Enfin, peut-être cachés. Mais ce que je voulais dire, en tout cas, c'est qu'on a quand même tous un point commun. C'est qu'on a les quartiers au cœur. Et on est convaincus que c'est une question politique. Et à partir de là, tous les débats sont permis entre nous. À toi, Mohamed.
Alors, pour finir... Oui, heureusement quand même qu'il y a des choses qui ont bien avancé, et moi je suis optimiste aussi pour la suite. Je dis parce qu'on a réussi quand même à créer des passerelles entre chercheurs, entre habitants des quartiers, entre milieux ruraux, sur des luttes qui, à un moment ou l'autre, nous éloignaient et qui finalement nous ont rapprochés. Ça veut dire qu'on est sur des convergences, et des convergences de luttes qui clairement finiront par payer par la suite. Donc ça, c'est intéressant. Il y a, tu l'as dit, il y a la question de la remise en question de nos égaux. Mais il n'y a pas que les nôtres, il y a aussi les égaux des autres. Et celles des autres, en l'occurrence, celles des partis politiques, qui nous empêchent aussi, et ne nous aident pas, à un moment ou à un autre, de pouvoir aussi être visibles. Ça, c'est aussi un problème. Et quand est-ce que cette gauche, qui à un moment ou à un autre voudrait nous laisser croire qu'elle serait plus humaniste que ceux qui les vivent, celle qui serait plutôt à les subir qu'à les vivre, être le porte-voix de ces habitants qui militent dans ces quartiers et qui seraient légitimes de pouvoir eux-mêmes porter haut et fort dans des instances assez représentatives pour être eux-mêmes leur porte-voix. Et donc, à quand on arrêtera, donne-moi tes idées, j'irai les transmettre pour toi, et plutôt, j'ai des idées, je vais les transmettre pour moi. Donc là, j'en vois, et je le dis ouvertement, que s'il y a aussi une responsabilité, si cette gauche, elle a envie, effectivement, à un moment ou à un autre, de capitaliser, d'accompagner ces mouvements qui sont issus de ces quartiers, qui sont légitimes, c'est pas de venir les invisibiliser, mais c'est plutôt de les rendre beaucoup plus visibles. Et ça, c'est important, parce que c'est ce que, malheureusement, on subit, à travers ça. Et ravi, effectivement, qu'il y a un mouvement qui est en train de se construire, parce que longtemps, chez certains, on estimait qu'on n'arriverait pas et que c'était impossible d'accéder à ces questions, d'être élu ou de rentrer dans de la politique. Et bien, ces tabous sont tombés. Il y a l'Assemblée des quartiers. Ça regroupe plein de gens qui sont un peu partout en France. On n'est pas d'accord sur tout, mais on s'est mis d'accord sur une chose, c'est que ce sera le rapport de force qui permettra aussi, à un moment ou à un autre, de se faire entendre, quoi. Donc, moi, je suis assez optimiste.
Vas-y, je t'en prie.
Voilà. Et de dire qu'en gros, voilà, en tout cas, moi, j'y crois. Et on n'est pas un problème, on est la solution, quoi.
Merci. Donc, merci beaucoup. Je vais sortir, sur ta conclusion, un instant de ma réserve. Dans le projet dans lequel on est, il n'y a pas que les élections. Il y a la solidarité, l'entraide, la formation, la transmission. C'est très important pour avoir nos propres instituts de formation des cadres politiques, des futurs cadres politiques, de la jeunesse. On ne fait que réinventer l'eau chaude, ça a existé pour les organisations politiques, d'éducation populaire. Hein, finalement, on est très, très, très bien intégrés, en fait. Hein, donc, et donc, du coup, ce que tu dis, ça aussi, ça m'inspire un débat qu'on va avoir à Pantin bientôt. En 2024, on se rappelle la dissolution, le risque de l'extrême droite. Et on aura un débat qui s'appelle, avec l'Assemblée des quartiers, qui s'appelle « Les quartiers ont sauvé la gauche et la République ». Et le contraire, est-il vrai ? Donc voilà, ça fait penser à ce débat-là. Merci à toutes et à tous. Merci Julien, Ulysse, Nadia, Mohamed. Merci à vous.
Même audio ? Une mémoire sonore ?